En somme, le regard s'est cristallisé des décennies durant sur le postulat que l'élitisme militaire et la criminalité étaient, dans le cas des soldats SS, les deux faces d'un même fanatisme guerrier. L'une ou l'autre de ces deux perspectives a ainsi été privilégiée, selon l'inclination des auteurs, qui ont le plus souvent passé sous silence ce qui n'allait pas dans leur sens. Du côté des apologistes du fait d'armes et de la bravoure militaire, le phénomène, perceptible en France depuis les années 1970, en particulier au travers des ouvrages de Jean Mabir, n'a rien perdu de son actualité. Pour s'en convaincre, il n'est que de compulser les revues d'histoire qui fleurissent dans les kiosques de nos jours. Il n'y a guère de mois sans qu'une couverture, un article, voire un numéro spécial, soit consacré à l'organisation SS en général ou à sa branche militarisée, la Waffen-SS en particulier. Sans prétendre épuiser le sujet en quelques pages, et au-delà des remarques forcément généralistes pour une organisation armée qui a vu passer quelques 800 000 personnels dans ses rangs, plusieurs aspects permettent de se faire une idée plus exacte de ce que fut la valeur professionnelle des troupes de la Waffen-SS pendant le conflit. Car comment définir autrement l'élitisme militaire sinon par la capacité d'un corps de troupes à remplir sa mission avec rapidité et efficacité, c'est-à-dire avec le minimum de pertes. Pourtant, comme nous le verrons, il est nécessaire d'ajouter à cette définition une dimension incontestablement moins objective. Le regard porté sur ces hommes, ici largement conditionné par la propagande. L'élitisme, valeur suprême de la SS. Le culte de la SS pour l'élitisme faisait intrinsèquement partie de son idéologie. Quel que soit le champ d'action investi par la SS, elle a voulu en avoir le monopole ou, à tout le moins, en être une avant-garde. Revendiquée par Heinrich Himmler, cette ambition reposait sur un double fondement, avec d'abord la conviction d'incarner une supériorité raciale qui apparaissait comme la mère de toute vertu à l'ordre noir, comme la SS s'appelait elle-même. Cette supériorité était garantie par une sélection raciale des candidats sur des critères médicaux, de taille, d'apparence physique et d'ascendance, ainsi que par une série de règles de vie encadrant non seulement les militants SS, mais aussi leurs épouses. L'élitisme autoproclamé de la SS reposait ensuite sur la conviction d'incarner l'idéologie nationale-socialiste la plus pure et, à ce titre, d'être l'organe exécutif le plus fiable au service du régime et de son chef Adolf Hitler. En ce sens, l'écrasement de l'aile révolutionnaire de la NSDAP le 30 juin 1934 a constitué un acte fondateur. Avoir été capable, au nom de la fidélité en Hitler, d'être l'instrument de la purge et d'exécuter des camarades du parti, sera encore invoqué par Himmler en octobre 1943 pour démontrer qu'il irait jusqu'au bout dans l'élimination des Juifs. Aussi, lorsque la SS a affiché dans les années 1930 des ambitions dans le domaine militaire, jusque-là strictement réservées à l'armée, l'a-t-elle fait avec la volonté d'être la meilleure? Tel le roi Midas qui transformait en or tout ce qu'il touchait, la SS prétendait transformer tous ses militants en soldats. Il ne s'agissait pas d'en faire des militaires investis de la seule mission de faire la guerre, mais des soldats politiques portés par leur idéologie et combattant en permanence en son nom, avec ou sans armes. Niveau d'instruction militaire à la veille du conflit. Rappelons tout d'abord quelques vérités élémentaires. Si le combat sur le terrain n'est pas une activité intellectuelle, ou si peu, il ne laisse également de place au courage que dans des proportions limitées, et en tout état de cause, bien inférieures aux représentations qui nous sont généralement données dans les films de guerre. En effet, la valeur professionnelle d'une troupe militaire repose d'abord et avant tout sur un socle de compétences techniques, savoir utiliser les armes et les matériels à sa disposition, et tactiques, savoir à chaque échelon hiérarchique se déployer sur le terrain en fonction de la mission et assurer la coopération interarmes. À ce socle de compétences s'ajoutent des capacités individuelles d'endurance en dépit des privations, soif, faim, manque de sommeil, ou de conditions climatiques défavorables, froid, chaleur, intempéries. D'autres facteurs d'ordre moral peuvent venir